Bienvenue dans le podcast Le Procès du siècle, Délibération citoyenne.
Une série d'entretiens imaginés et produites par le MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée.
Pour cette première saison 2021-2022, il sera question de nous
et de l'usage que nous faisons du monde.
Par exemple, allons-nous vider les océans?
Face au dérèglement climatique, est-il trop tard?
Avons-nous encore la maîtrise du temps?
À chaque épisode, nous appellerons à la barre des excès de nos sociétés contemporaines et irons, avec Lionel Bordeaux et Anne-Cécile Bras,
à la rencontre de deux experts et de paroles citoyennes.
Bienvenue dans cette troisième session des grands procès du siècle organisée par le MUCEM, avec pour thème aujourd'hui « Sinon, ce sera trop tard ».« Sinon, ce sera trop tard » est une phrase que nous avons souvent entendue, notamment à l'occasion des grands sommets climatiques. Les COP, par exemple, une façon pour les décideurs, les diplomates, les ONG d'attirer l'attention des citoyens, du public en disant « c'est peut-être le sommet de la dernière chance, sinon ce sera trop tard ». Mais que serait ce trop tard? Pour comprendre, il est peut-être important de rappeler que nous avons désormais un budget carbone qui a été éclairci par les scientifiques, c'est-à-dire un nombre de CO2 que nous pouvons émettre dans l'atmosphère, un nombre maximum, et cela sur une période de 1750, juste avant l'industrialisation des sociétés européennes notamment, jusqu'à 2100. Et ce budget carbone est de 3000 gigatonnes de CO2 que nous pouvons émettre entre 1750 et 2100. Le problème, nous en avons déjà émis 2200 gigatonnes. Il ne nous en resterait que 800. Et sachant que nous en émettons chaque année 50 gigatonnes, cela ne laisserait que 16 ans à l'humanité pour arriver à limiter, voire à freiner totalement les émissions de gaz à effet de serre. 16 petites années. Ce serait ça le trop tard. Au-delà de ces 2 degrés, les climatologues, les scientifiques nous alertent, prévenant que nous risquons d'avoir totalement dérégler notre système climatique et que cela ne pourra plus s'arrêter. Pour discuter de ces questions, de ce débat, nous avons aujourd'hui 2 invités. Emmanuel Guérin, qui est directeur des relations internationales de la Fondation européenne du climat, qui a été très impliqué dans l'écriture de l'accord de la COP21 auprès de Laurence Tubiana, qui était alors la négociatrice en chef de la COP21, et Hindou Umaru Ibrahim, qui est une citoyenne engagée, qui n'aime pas toujours être décrite par son activité ou par une fonction, mais qui est la présidente des femmes peules et des peuples autochtones. Nous allons pouvoir démarrer ce procès, ce débat, en commençant peut-être par cette première question. Hindou Umaru Ibrahim, qu'est-ce que c'est qu'un peuple autochtone?
Bonjour. Alors, quand on parle des peuples autochtones, le mot autochtone en français est un peu confus dans la définition. Autochtone en anglais, qui veut dire indigenous. Alors, on se réfère tout de suite à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée le 13 septembre 2007 à New York par l'Assemblée générale. Et là, c'est défini les peuples qui sont les premiers quand on parle de l'Amérique latine, mais quand on parle de l'Afrique, c'est les peuples qui ont 5 critères, dont l'attachement à la terre, dont l'attachement à la langue, la discrimination par rapport à la communauté la plus grande, la marginalisation, mais aussi ce sont les peuples qui sont les premiers sur place qui ont une culture, une identité bien définie.
Alors aujourd'hui, la question de ce procès, est-ce qu'il est trop tard pour agir pour le climat? Et quels seraient les responsables de cette situation? Est-ce que ce sont les industriels, les gouvernements, des citoyens qui ne seraient pas assez conscients? C'est le sujet que nous allons donc débattre. Chaque invité va présenter des pièces à conviction. Et on va peut-être commencer par vous, Emmanuel Guérin, car cela fait quand même bien longtemps que les questions climatiques sont débattues. Et je crois que vous aviez trouvé un rapport qui montre que finalement, cette question était connue depuis des années.
Oui, c'est ça. Alors, je me suis replongé dans les archives. Alors, effectivement, ce rapport qui est écrit par 2 chercheurs de Stanford, qui l'adresse à l'Institut américain du pétrole, donc concrètement l'association qui regroupe et qui défend les intérêts de l'industrie, aussi bien, à vrai dire, pétrolière que gazière que charbonnière. Et dans ce rapport, les 2 chercheurs de Stanford, qui s'appellent Robinson et Robbins, rappellent tout ce qui est scientifiquement établi sur les dérèglements climatiques, la contribution des énergies fossiles, la responsabilité donc des pétroliers, des gaziers et des charbonniers. Et le plus étonnant peut-être dans cette archive, c'est qu'il se trouve qu'elle date de 1968.
Donc dès 1968, il était très clair pour l'industrie pétrolière, en tout cas, que les émissions de CO2 en trop grande quantité pouvaient avoir un effet néfaste sur le climat.
Oui, tout à fait. Alors, en l'occurrence, par certains dans l'industrie pétrolière, dans cette archive aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, y compris en France et en Europe. Quelques scientifiques, pas beaucoup non plus, c'est ça qui est intéressant. Hein. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, depuis 1968. À l'époque, la science climatique, elle est naissante. Il y a des gens qui commencent à regarder comment est-ce que tout ça fonctionne. Il y a quelques activistes environnementaux qui travaillent sur cette question-là, mais pas tant que ça non plus. Il y a d'autres sujets de mobilisation. 2 ans plus tard, la première journée de la Terre, elle se fait sur des thèmes de mobilisation qui sont pas au premier plan la protection du climat. Très vite, à la fois des responsables politiques et des responsables économiques, et c'est pour ça, je pense que cette archive est d'une certaine manière assez troublante. Moi, pour pas me cacher, la première fois que je l'ai découverte, bien sûr que la première réaction, instantanément, c'est de la colère.
Devant quoi ? Devant l'inactivité ? Le manque de responsabilité, justement ? Est-ce que les pétroliers...
C'est toujours une bonne question, se demander qu'est-ce que les gens savaient pour de vrai. En l'occurrence, ils n'avaient pas du tout le même état de connaissance. Alors, sur les causes et les conséquences des dérèglements climatiques, oui. Donc ça, cette partie-là, elle est objectivement plus que troublante. Et c'est pour ça que cette archive, elle a été utilisée notamment pour instruire, pas de faux, mais de tout à fait vrais procès contre les grandes industries pétrolières, notamment aux États-Unis, mais ailleurs aussi en Europe et notamment aux Pays-Bas. Donc c'est l'une des choses que dit cette archive.
Ce qui est intéressant, c'est que Hindou, vous avez choisi comme pièce à conviction plusieurs photographies qui présentent l'évolution du lac Tchad. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'Emmanuel vient de dire que ce rapport date de 1968. Vous, votre première photo, je crois, date de 1963, 5 ans plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous présenter, pour les personnes qui nous écoutent, ce que c'est que cette pièce à conviction ? Qu'est-ce que vous aviez envie de présenter et de porter au débat ?
Exactement. D'abord, en écoutant Emmanuel, moi, je me sens énervée déjà, parce que les gens connaissaient qu'est-ce que les industriels faisaient. Mais ils ne les ont pas fait. Pourquoi ils n'ont pas pris ses responsabilités? Parce que sinon, ma pièce à conviction, elle allait être intacte. Parce que ma pièce à conviction, c'est, imaginez-vous, 25 000 km carrés de l'eau fraîche. De l'eau qui est partagée entre des pays comme le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, le Niger et le Nigeria. Ces 5 pays à leurs frontières qui ont plus de 40 millions de personnes qui vivent, qui en dépendent, qui sont des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, qui utilisent ces ressources en poissons, en eau, en toute terre fertile autour, mais qui sont en train de voir et de vivre ces eaux disparaître juste en comptant des décennies.
C'est ça, c'est qu'entre 1963 et aujourd'hui, le lac Tchad a diminué de combien ?
Alors, 1963, il était à 25 000. C'était juste quand ma mère était née, dans les années 80, quand moi j'étais née, il restait 10 000. Et actuellement, on peut compter entre 1 500 et 3 000, dépendant des saisons de pluie. Donc 90% de ces eaux se sont juste évaporées. Et ceci est dit effectivement au changement climatique, parce qu'il n'y a pas de l'agriculture industrialisée qui utilise ces eaux, qui les détourne de ces lits, mais on est en train de vivre ça. Et ces communautés qui vivent et qui en dépendent ont des conséquences énormes.
Parce que là, en fait, on parle de 60 ans. 60 ans environ, un peu moins, pour la connaissance de ce rapport, et 60 ans pour le début de la dégradation du lac Tchad jusqu'à aujourd'hui. Donc Emmanuel Guérin, vous qui avez été impliqué dans les différentes COP, et notamment la COP21, qui a donné lieu à l'accord de Paris, on est aujourd'hui à la COP26. Est-ce que ces rassemblements internationaux servent vraiment à quelque chose ? Quelle a été l'utilité de ces conférences, puisqu'on voit la dégradation de notre planète, et notamment au Tchad ?
Alors, ces COP, celles de Glasgow comme celles de Paris avant elles, sont souvent présentées comme les sommets de la dernière chance. Je pense que chacun a un peu le même genre de réaction au bout de 5 ou 10, ou en l'occurrence 26 COP. La plupart ont été présentées comme les COP de la dernière chance. Au bout d'un moment, il y a un effet de lassitude qui est très grand, et en partie, je pense que c'est ce qui se passe, même si on a vu des mobilisations très importantes. Hein. En l'occurrence, il y a une progressivité des impacts. Après, c'est normal d'avoir une certaine forme de théâtralisation presque de ces sommets de la dernière chance ou les élections ou des moments législatifs particuliers, parce que de fait, ce qui se produit aussi dans le réel, c'est qu'il y a des fenêtres d'opportunités politiques qui s'ouvrent autour de certains sommets ou autour des élections comme l'élection présidentielle en France dans quelques mois maintenant. Une fois que les fenêtres sont refermées, que l'élection est passée ou que le sommet est terminé, pendant plusieurs années, on parle d'un agenda de mise en œuvre, mais il se passe très longtemps avant de reconstruire une forme de mobilisation politique.
C'est ça où on a cette impression d'une complexité où finalement tout est entremêlé. Et c'est vrai que Hindou Omarou Ibrahim, pour compliquer les choses, c'est que le Tchad, en effet, est victime du réchauffement climatique, notamment, comme vous l'avez expliqué, au lac Tchad, mais en même temps a des ressources pétrolières importantes dont les revenus ne profitent pas au peuple tchadien. Donc comment vous gérez-vous déjà, rien qu'au Tchad, cette complexité ?
Je pense que les complexités, quand on parle du climat, c'est un peu partout, sur notre économie, sur la politique et aussi sur les citoyens, sur tout le monde. Parlant du Tchad, bien sûr, on avait deux ressources, l'élevage et l'agriculture, qui étaient les mamelles du Tchad pour toute notre économie. Et même jusqu'à maintenant, l'élevage fait quand même 20% de notre PIB. Mais tout d'un coup, quand l'exploitation du pétrole a commencé, donc le pétrole a pris le dessus. Il y avait quand même une espèce de pensée à la génération future et il y avait un accord avec la Banque mondiale parce que les premiers qui ont exploité, c'est Exxon qui sont les Américains. Ils disaient qu'il faudrait garder 1 000 milliards de dollars pour la génération future. Mais or, il y a eu tout de suite une décision, si la génération présente n'a pas profité de ça, alors pourquoi garder pour les générations futures? Et tout a changé. Les Chinois maintenant sont sur le terrain pour exploiter le pétrole. Et quand on voit quand même le Tchad n'est pas le pays le plus développé quand on parle de l'Afrique seulement, sans parler du monde entier. Et est-ce que notre avenir est rassuré? Je dirais non. Alors du coup, est-ce que c'est basé sur à aller sur les énergies fossiles parce qu'on croit qu'on va avoir un développement durable, ça va le faire? Moi, je dirais non. Donc on a le choix, on peut changer. C'est pas le pétrole ou l'exploitation fossile qui va faire qu'un pays soit riche ou ses populations soient riches. Alors, il est temps de repenser différemment tout ce qu'on est en train de faire pour que notre économie soit sobre en carbone, mais pour que la justice climatique soit instaurée. Parce que tout est une question de justice et de l'accessibilité pour tout le monde d'une manière équitable.
Avant qu'on parle aussi des actions que vous proposez l'un et l'autre, ça serait quoi cette justice climatique ?
Alors, la justice climatique, c'est que le pollueur paye, comme on le dit dans les termes des négociations. Qui sont les pays qui sont les plus pollueurs? C'est les pays développés. Ce sont les pays qui ont profité de cette exploitation minière, qui ont développé leur industrie, on peut dire automobile, on peut dire des aviations, ainsi de suite, qui ont profité sur les autres. Et alors, les pays qui en subissent les conséquences du changement climatique, c'est les pays en développement. Quand on prend l'Afrique en général, quand on prend le Tchad, malgré même si on a le pétrole, on ne produit pas les gaz à effet de serre, parce que c'est juste à une toute petite échelle. Mais on est les premières victimes du changement climatique. Donc c'est ça l'injustice climatique. On n'a pas pollué, mais on est en train d'être impacté le plus.
Alors justement, Emmanuel Guérin, vous qui avez participé à ces différentes COP, comment pouvez-vous expliquer qu'en effet, il y ait autant de difficultés à se mettre d'accord sur ce principe d'une justice climatique, et notamment la question de l'indemnisation des pays qui sont aujourd'hui les plus exposés au changement climatique, n'a pas pu aboutir vraiment?
Oui, j'étais très intéressé d'ailleurs d'écouter ce que racontait précisément Hindou, parce que certains dans les pays développés, y compris la France ou plus largement l'Europe, parfois de façon encore plus caricaturale aux États-Unis, n'arrivent pas à voir la justice climatique et l'ambition climatique comme les deux faces de la même solution. Alors, du même problème aujourd'hui, injustice climatique et injustice sociale, mais possiblement les deux faces de la même solution. Pourquoi est-ce que c'est très compliqué ? Parce que les uns et les autres se réclament de formes de justice différentes. Comme dans toute bonne histoire, il faut qu'il y ait des méchants. C'est aussi ce que montre cette archive que j'ai exhumée. Et c'est pour ça qu'il y a des procès, non pas des faux procès, mais des vrais procès. Une partie de l'industrie pétrolière, gazière, charbonnière, s'est tout à fait explicitement et consciemment opposée à des formes d'action climatique.
Mais ça, dans une COP, vous qui avez participé, vous voyez cette intervention, comment elle se manifeste ?
Elle est bien sûr pas aussi explicite. Elle se joue à travers le rapport de force et de puissance entre États, principalement, parce qu'une COP, ça reste, même si à la fois les entreprises, les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, les villes, les départements, les régions, donc toute cette foule de plus en plus bigarrée, et c'est très bien, se réunit autour des COP, mais non, ce qui reste... le cœur de ces moments-là, des États qui négocient entre eux. Alors, bien sûr, des grands pays qui dépendent tout à fait des ressources fossiles.
Et qui bloquent du coup l'adoption de propositions plus ambitieuses. L'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui en effet n'ont pas intérêt à dire bon, on arrête les énergies fossiles puisque c'est leur source de revenus principale.
C'est très vite important de différencier les peuples et leurs gouvernants ou leurs représentants, démocratiquement élus ou pas. Souvent, en tout cas, c'est y compris une partie du travail au quotidien. Il y a des gens qui se mobilisent dans certains pays, y compris dans des géographies difficiles. Il se trouve aussi qu'il y a des gens qui se mobilisent très fortement pour porter un autre projet de développement pour leur pays.
Justement, là, ça fait une transition avec ce que vous faites, Hindou, sur le terrain. Vous avez développé une approche qui est une approche très originale de marier le savoir scientifique... parfois la technologie, mais à voir avec les savoirs autochtones. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette démarche et c'est ce qui fonde aujourd'hui votre action ?
Je pense qu'il est très important de voir comment les communautés combinent les savoirs traditionnels, les connaissances scientifiques et la technologie afin de construire une solution.
Comment ça marche concrètement ? Peut-être donner un exemple d'un de ces savoirs traditionnels et de voir qu'est-ce qu'il peut apporter justement à ce qu'on peut penser être la science, la technologie, etc. Comment on arrive à ce mélange ?
Vous savez, dans notre monde maintenant, moi je le disais facilement et je pense que ça c'est la pièce de conviction qui parlera à tout le monde. Dans les pays développés, et y compris moi, quand je suis en Europe, quand on se lève le matin, ce qui est simple, c'est de prendre son smartphone et de regarder l'application de la météo, s'il va pleuvoir, s'il va faire beau, ou bien s'il va faire froid, afin de s'habiller avant de sortir. Et ce qui est normal, parce que c'est une technologie qui est développée pour la nature, pour les humains. Mais or, moi je disais, ma grand-mère est la meilleure application possible que je connais. Parce que ma grand-mère, qui est mon application favorite, elle peut juste en observant les déplacements des nuages, en observant la direction du vent, s'il vient du sud ou du nord, s'il est lourd ou sec, en observant les migrations des oiseaux, elle peut te dire s'il va pleuvoir ou pas, s'il va faire chaud ou pas. Mais nous, on a utilisé ces potentialités pour créer des solutions. Donc, en utilisant ces savoirs traditionnels ancestrales, et aussi en utilisant les photos satellitaires qui viennent des images, on peut dire des NASA ou de la CIA ou de n'importe qui, mais nous, on les utilise pour les communautés, par les communautés. Ils viennent sur la carte, ils trouvent une plateforme. Ils reconstruisent tous ces savoirs et connaissances traditionnelles d'une manière participative, sans aller à l'école. Et une fois qu'ils ont fait ces cartes, ça permet de faire le monitoring combien de ressources naturelles qu'on a. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Comment on va les restaurer? Ça permet à faire la gestion durable de ces écosystèmes, mais aussi les partages équitables et les partages pour garder pour la génération future sans que ces ressources puissent s'épuiser. Le plus important, ça permet à faire l'atténuation de conflits intercommunautaires sur les ressources naturelles. Parce que nous tous, on connaît ou on a entendu ce qui se passe dans le Sahel, entre les communautés au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad. Même dans d'autres pays, maintenant, ça commence dans les pays du bassin du Congo, dans les communautés qui s'entretuent juste pour accéder à l'eau potable ou à une terre fertile. Et si on arrive à construire des solutions avec ces technologies et connaissances...
Cette démarche commence déjà à produire des effets sur le terrain.
C'est-à-dire ça veut dire que ça marche.
ça marche.
Ça veut dire que ça marche.
Et vous êtes entendu quand vous parlez de ça, justement, ou à des diplomates, ou à des chefs d'État, ou à des industriels? Quelle est leur réaction quand vous proposez cette solution?
Alors, les réactions, d'abord, c'est la surprise, parce qu'ils pensaient que les solutions climatiques venaient seulement de ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont fait des doctorats pendant plusieurs années. Mais ils ne se rendaient pas compte que ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent mieux leur environnement, ils ont des doctorats plus en protection de l'environnement. Et donc ça, ça les amusait au début, mais après, ils reculaient pour nous écouter. Et la preuve en est, pour la première fois, pendant la COP21, il y a eu la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des savoirs des peuples autochtones dans l'accord de Paris, pour la première fois, après 20 ans de négociations. Et à la COP26, pour la première fois, tous les chefs d'État, c'était le 2 novembre, et j'étais sur le podium. Ils sont tous venus pour dire que les Autochtones sont les meilleurs gardiens de la nature, on les reconnaît, et ils ont donné 1,7 milliard de dollars pour les Autochtones pour mettre en œuvre ces savoirs traditionnels, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Donc, ils nous écoutent, mais est-ce qu'ils nous entendent? C'est une question.
Emmanuel, vous étiez justement à la COP21. Parfois, vous vous présentez comme un diplomate activiste, comme un diplomate un petit peu particulier. Quand vous entendez justement le témoignage d'Hindou, comment vous réagissez et quelles sont les actions les plus efficaces que vous voyez justement pour se saisir de cette question du changement climatique?
Bon, déjà, quand j'écoute Hindou, mais ça me fait un peu la même chose à chaque fois, donc c'est une raison de recommencer. Je me sens toujours avec plus d'énergie que avant d'avoir discuté avec elle. Il se passe autour de ces COP et plus généralement des choses extrêmement concrètes qui peuvent avoir un vrai impact sur l'environnement, sur la société, sur l'économie. Par exemple, à la COP26 à Glasgow, l'Afrique du Sud s'est engagée à sortir du charbon pour les remplacer par des énergies renouvelables plutôt que du gaz. Et en contrepartie de ça, les pays riches, leurs différentes banques de développement, ont apporté 8,5 milliards de dollars pour soutenir. Alors, plusieurs choses d'ailleurs, à la fois le plan de sortie du charbon en Afrique du Sud, le plan de montée en puissance des énergies renouvelables, mais aussi traiter la question de la justice sociale qu'évoquait Hindou, c'est-à-dire très concrètement, à la fois les gens qui aujourd'hui dépendent de la production de charbon pour vivre, hein, dont c'est la profession, les mineurs dans les mines de charbon en Chine, les gens qui aident à produire de l'électricité à partir de charbon, et puis aussi tous les consommateurs d'énergie. Et je pense que, y compris ici en France, tout le monde voit bien le sujet à la fois politique, mais à vrai dire très concret, notamment pour toutes celles et ceux qui ont des budgets très contraints autour de l'augmentation des prix de l'énergie. Donc voilà, l'Afrique du Sud, c'est un exemple.
Mais c'est vrai que dans le même temps, la Chine et l'Inde refusaient de s'engager sur l'arrêt du charbon. Donc on peut avoir l'impression que c'est bien que l'Afrique du Sud agisse, mais que les plus gros consommateurs de charbon au monde aujourd'hui...
La réalité de ce qui se passe en Chine notamment est souvent un petit peu plus subtile que la caricature qui en est faite. Malheureusement, pour parler spécifiquement de la question climat, même si bien sûr les sujets politiques sont beaucoup plus larges avec la Chine, sur le climat, l'un des résultats à vrai dire douloureux de la COP à Glasgow, c'est qu'aujourd'hui la Chine avance plus lentement que l'Europe et les États-Unis, alors qu'en Chine, on a vu un engagement très important pris par le président chinois en amont de la COP de Glasgow, qui s'est engagé à la fin du soutien au charbon dans le cadre des nouvelles routes de la soie. En revanche, pour ce qui concerne la réduction des émissions en Chine, effectivement, il y a d'autres considérations qui l'emportent aujourd'hui sur une vraie action climatique plus forte en Chine. Je pense que c'est très important de se dire que là non plus, c'est pas une raison de ne pas faire chez nous.
Parce que c'est parfois le sentiment que les gens ont. La Chine est tellement importante aujourd'hui dans son poids sur le changement climatique.
Oui, alors en l'occurrence, pour discuter un peu précisément, l'Europe fait preuve d'aucune forme de naïveté sur ce sujet-là. Hein. Enfin, c'est notamment tout le débat sur la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, pensée spécifiquement vis-à-vis de la Chine, dont il serait utile aussi peut-être que l'Union européenne dise peut-être que les pays les moins avancés, notamment africains, notamment le Tchad, dont vient de parler Hindou, pourraient être exemptés de cette taxe carbone aux frontières. Enfin, ce qui me semble le plus important, une espèce de rhétorique de l'action climatique en Europe. On aime en France, à partir du nucléaire comme plus généralement en Europe, à se croire les champions de l'action climatique internationale. Je pense que le décentrage auquel nous invite Indou et bien d'autres, hein, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, fait qu'on n'est peut-être pas tellement meilleur que beaucoup d'autres. Surtout, il y a des choses à faire très concrètement pour aider des pays comme le Tchad, comme le Mali.
On peut en parler pour terminer cette émission, ce podcast. C'est qu'une rencontre va se tenir très prochainement, le 22 février. Encore un sommet international entre l'Afrique et l'Europe. Indou, quel est le regard que vous portez sur cette rencontre où les chefs d'État vont à nouveau débattre de la façon de faire baisser les gaz à effet de serre pour limiter les effets du changement climatique? Qu'est-ce que vous inspire cette rencontre? Est-ce que c'est encore une réunion de plus ou est-ce que vraiment les choses sont en train de changer là-dessus?
Non, j'espère que dans cette rencontre, ils auront le temps de parler profondément sur la protection de l'environnement et surtout pour lutter contre les changements climatiques. Que cette rencontre ne va pas seulement servir à parler des positions politiques parce que vu ce que les pays du Sahelien passent maintenant entre le Mali, le Burkina hier, la transition au Tchad, on peut parler aussi du pays anglophone ainsi de suite, qu'ils ne vont pas juste se focaliser pour parler de ces politiques, ce qui est important aussi, mais qu'ils auront le temps de parler de la protection de l'environnement, de la responsabilité partagée, des engagements sur l'investissement pour le pays en développement. Ils ne doivent pas seulement se limiter sur les intérêts politiques parce qu'on sait que dans plusieurs pays, et en Afrique et en Europe, il y aura des élections bientôt. On ne veut pas être les victimes de ces politiques.
Vous y serez au sommet? Comme pour les COP, il y a une place qui est donnée aux associations
Ils choisissent ces associations, mais bon,
malheureusement,
jusqu'à là, j'en fais pas partie.
Vous les dérangez? Est-ce que c'est les femmes qui les dérangent encore? Quel est le problème?
J'espère qu'ils auront la conscience de mettre des femmes dans ces prises de décision, parce que je n'ai pas envie de voir les femmes sur des photos qu'on peut compter au bout du doigt et que les hommes qui sont devant en train de prendre des décisions, et non plus aussi des associations qui veulent dire oui à eux, mais sans les organisations qui peuvent leur dire la vérité en face.
Emmanuel, pour conclure peut-être, selon vous, quelle est l'action qu'il faudrait le plus soutenir dans justement ces grandes rencontres internationales? C'est quoi l'élément qu'il faudrait arriver à faire basculer pour que peut-être les effets du réchauffement climatique soient le plus limités?
Je pense que c'est très concrètement sur cette question du financement par pays, sur des aspects de la transition écologique, alors notamment sur la transition énergétique, mais sur l'agriculture aussi, sur l'adaptation aux impacts. Mais je pense que si ce sommet Europe-Afrique du 22 février est si important, c'est que la situation est très compliquée, objectivement. Elle est douloureuse pour l'Afrique, notamment parce que c'est un continent, 54 pays qui ont très peu contribué historiquement à la crise climatique. Aujourd'hui se pose très concrètement autour de ce sommet la question du mix énergétique pour la croissance du continent africain. Je crois que ce n'est pas exagéré de poser la question en ces termes. Il faut que nos beaux discours s'accompagnent de financements nouveaux, additionnels. Parce que si vous voulez, l'Afrique, à la fois les responsables politiques et la population africaine, regardent les choses un peu de la façon suivante. C'est-à-dire que à la COP, comme depuis 12 ans, la promesse de mobilisation des 100 milliards de dollars n'a toujours pas été tenue. C'est très bien que les Sud-Africains aient pu se faire financer pour 8 milliards et demi la sortie du charbon, le déploiement des énergies renouvelables. Il se trouve qu'il y a tout un tas de pays sur le continent africain qui ont peut-être moins de ressources en gaz que le Nigeria, que le Sénégal ou que la Côte d'Ivoire. Des pays enclavés aussi, comme le Tchad, pays d'Afrique francophone et anglophone, le Kenya, le Rwanda, le Maroc, l'Égypte. Tout ça, c'est des pays dans lesquels il y a une volonté politique qui existe, un soutien des citoyens aussi pour, de fait, sortir du charbon, les remplacer par des énergies renouvelables plutôt qu'une autre énergie fossile. Tout ça, ça prend du temps, ces montages institutionnels. Il se trouve que l'Afrique et le reste du monde n'ont pas beaucoup de temps. Donc c'est la responsabilité de la France, de l'Europe et des autres pays riches que d'arriver avec des financements qui permettent de décoincer la situation dans ces pays-là.
Hindou, peut-être pour conclure, la responsabilité alors des pays riches dont parlait Emmanuel Guérin.
Je pense que la responsabilité des pays riches doit être transmise par des actions concrètes. Et je ne parle pas ici de l'aide au développement dont on en parle depuis des décennies, mais où on ne voit pas là où cette aide au développement va, jusqu'à ce que c'est les mots qui viennent. Donc on veut les décisions prises par les Africaines et les Africains, et ces décisions sont mises en œuvre par les Africains et les Africaines, et que cette transmission des technologies et des financements soit sur la table pour nous, afin qu'on puisse aussi faire notre développement. J'ai dit, on est là pour vivre. On ne mérite pas de survivre. Et c'est ça la question climatique.
Merci à tous les deux pour ce troisième podcast sur les grands procès du siècle, organisé par le MUSEM. On se rend compte à vous écouter que nous sommes dans une situation très compliquée, mais il est sûr que l'énergie de certains citoyens et de certaines citoyennes et la détermination des chefs d'État peuvent vraiment faire la différence. Donc souhaitons que cette détermination et cette énergie soient la plus forte possible. À bientôt.
C'était le podcast « Le procès du siècle,
des libérations citoyennes ».
Une série réalisée en partenariat
avec les amis du MUSEM, Libération, Magma et RFI.
Merci de l'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.